I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je suis né dans un monde que j'ai voulu fuir à tout prix. Le monde des fêtes foraines et du picon, de Johnny Hallyday et des pavillons, le monde des gagne-petits, des hommes crevés au turbin et des amoureuses fanées à 25 ans. Ce monde, je n'en serai plus jamais vraiment, j'ai réussi mon coup. Et pourtant, je ne peux parler que de lui. Ces mots, ce sont ceux de Nicolas Mathieu, prix Goncourt l'an dernier pour son roman « Leurs enfants après eux », une bouleversante plongée dans des vies qu'habituellement, ni la fiction, ni les médias ne montrent plus. Ne montraient plus d'ailleurs, faudrait-il mieux dire, car quelques jours après ce prix, explosait le mouvement des Gilets jaunes, porté en grande partie par les représentants de ce monde habituellement invisible, pour le coup rendu très visible au moins le temps des manifestations. Un an plus tard, sort un autre livre, miroir de celui de Nicolas Mathieu jusque dans sa couverture. Il s'appelle « Ceux qui restent », il est signé par le sociologue Benoît Coquart, et il propose, sans aucune condescendance, de décrire le plus précisément possible ce que vivre dans ce qu'on appelle les campagnes en déclin veut dire. Nous allons y consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ce livre, c'est le résultat de 9 ans d'enquête sur des périodes plus ou moins longues dans le Grand Est, la région d'origine de Benoît Coquart, notre invité. Une région qu'on a un peu vite rangée dans le grand fourre-tout de la France périphérique, une notion issue des travaux du géographe Christophe Guilly, largement déformée par l'usage médiatique qui en a été fait. Dès le début, le livre qui aujourd'hui nous intéresse prend ses distances avec ce terme. Et j'ai commencé ma discussion avec Benoît Coquart en lui demandant pourquoi.
Ce qui ne m'a pas satisfait avec la France périphérique, c'est peut-être moins le concept en lui-même que l'usage qui en était fait finalement, que ça soit dans les médias ou dans la sphère politique, c'est très rare finalement qu'un concept issu des sciences sociales soit autant repris de, on va dire, la gauche du gouvernement jusqu'à l'extrême droite aujourd'hui. Et c'est devenu un mot fourre-tout, je pense, qui a largement dépassé les propos initiaux de son auteur. Et ce qui, moi, me frappe dans le concept de France périphérique, c'est surtout qu'en fait, l'usage de ce terme permet de mettre dans le même panier tout un tas d'espaces qui, finalement, on connaît très mal. Ce serait les espaces loin de Paris, loin des grandes villes. Et comparer, par exemple, une vallée désindustrialisée du Grand Est, sur lesquelles j'ai pu travailler, et des villages viticoles de l'Ouest, ça serait comme, je sais pas, mettre dans le même panier Aubervilliers et Neuilly-sur-Seine. En fait, ça marcherait jamais si vous proposiez une telle catégorie pour un espace que ceux qui produisent les représentations de la société, donc qui vivent en ville, hein, les médias, les journalistes, les politiques, s'ils les connaissaient mieux, ils n'en parleraient pas comme ça d'un seul tenant. Et moi, j'ai voulu d'emblée, en fait, partir un petit peu là-dessus, sur l'intro, sans rentrer vraiment. Mon livre, c'est pas une réponse à la France périphérique. Moi, j'avais commencé à travailler avant que ce terme-là apparaisse dans les médias, etc. Mais c'était plutôt de dire, on va essayer de rompre avec ce regard qui est finalement, sur les mondes ruraux, qui est finalement toujours adressé de la ville. Et la France périphérique, elle dit bien, pour nous, vous êtes périphérique. Alors que quand vous habitez en milieu rural, vous vous sentez n'était pas périphérique, puisque votre centre de vie, il est en milieu rural. Donc moi, l'idée de ce bouquin, c'était un petit peu de renverser, de renvoyer un miroir finalement aux lecteurs urbains, et puis de donner aussi aux ruraux la parole. Ne plus être dans ce que Bourdieu appelait, pour ces ruraux, c'est les paysans notamment, une classe objet. C'est-à-dire qu'on est parlé par d'autres, mais soi-même, on ne peut pas parler de soi. Et c'est ce que me disaient d'emblée mes enquêtés, comme on dit en sociologie, c'est que qui va lire un bouquin qui parle de nous ? Ça va intéresser personne. Et pourquoi ils pensent que ça va intéresser personne ? Parce qu'ils ne sont pas habitués à voir des gens comme eux. Des gens qui ont leur accent, qui viennent du même milieu social, qui viennent de ces campagnes en déclin, en fait, dans lesquelles on fait très peu d'études longues. Donc voilà, c'est un peu l'objectif du livre.
Ces groupes de personnes, ces zones qui sont invisibilisées habituellement, on les a vues, pour le coup, lors de l'épisode des Gilets jaunes. Alors, on les a vues caricaturées, sans doute beaucoup, énormément par les médias, mais on les a vues quand même. Est-ce que, là aussi, ça vous a surpris quelque part d'être, rattrapé par l'actualité ?
Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il a été une surprise avant tout heureuse. En fait, j'avais écrit un petit texte, j'avais fait des interviews avant le mouvement, parce que j'avais déjà travaillé en amont sur la réduction aux 80 km/h, où j'avais vu des gens qui se politisaient sur l'usage de la voiture, alors que c'était des personnes que je suivais depuis plusieurs années qui ne se politisaient pas, qui ne votaient pas. Et en fait, ils ont suivi dans le mouvement des Gilets jaunes ces personnes-là, ils ont été des premières heures, moi j'avais observé le premier jour, etc. Ils étaient là d'emblée, donc ça ne me surprenait pas que ce soit ces personnes-là qui se mobilisent. Ça ne m'a pas surpris non plus qu'il y ait un intérêt pour la mobilisation, parce qu'au départ, ça a été propagé, même promu dans les médias, comme un mouvement anti-taxe, finalement un mouvement entre guillemets de droite, anti-impôt. C'était réduit à ça. Avant le mouvement, hein, j'entends. Après, ça a largement changé, puisque les revendications ne correspondaient pas en fait à ça. Mais donc, ça ne me surprenait pas qu'ils soient instrumentalisés. Parce qu'on était déjà habitués à ce qu'il y ait deux visions, en gros, qui s'opposent sur les mondes ruraux. Il y a d'un côté une espèce d'ode aux vrais Français, aux vrais peuples qui seraient oubliés, et qu'on opposerait évidemment aux populations immigrées, aux populations venues des banlieues, qui en fait, sociologiquement, pour nous sociologues, appartiennent toutes les deux aux classes populaires. Et moi qui ai travaillé auparavant sur les jeunes de quartiers populaires urbains, et ensuite sur les jeunes ruraux, j'avais une continuité dans mes recherches. En fait, je retrouvais des situations assez comparables, mais il y a évidemment des effets territoriaux, des effets de lieux qui ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a d'un côté ça, j'ai une vision qui est marquée plutôt à droite, et plutôt à gauche, on a qui peut aussi être transcendant, mais qui on a plutôt une vision du mépris d'une population qui serait inculte, fermée aux autres, raciste, etc. Donc tous ces préjugés-là, en fait, se cumulent, et l'instrumentalisation, elle va dans le sens de ce que je vous disais avant, de l'idée de la classe objet, finalement, qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais on s'autorise à parler de ce qu'ils sont, sans jamais y avoir mis les pieds, ou si on y a mis les pieds, c'est dans sa résidence secondaire, avec un usage contemplatif du territoire qui ne correspond pas à ce que les gens font dans leur vie quotidienne.
L'idée, justement, c'était d'entrer dans la quotidienneté de ces zones. Il y a un élément qui est très important et qui traverse un peu tout le livre, c'est la notion de groupe. Ça revient tout le temps. C'est le fonctionnement, justement, on parlait de nécessité de collectif et des Gilets jaunes comme d'un moment collectif. C'est un déterminant très important, le groupe dans ces zones-là.
Je suis très content que vous ayez relevé ce point-là. Moi, j'ai voulu en faire le cœur de mon livre, parce que déjà, c'est quelque chose qui est venu de l'enquête de terrain. Moi, ça fait plusieurs années que je vis dans ces territoires-là, en alternance, mais où j'interview des personnes, je vis avec plusieurs, justement, groupes comme ça, qui sont des groupes d'amis, qui peuvent être des groupes de loisirs, etc., mais qui, en fait, nous rappellent que contre tous les discours dominants de l'individualisme grandissant qui raserait les campagnes, moi je parle quand même de territoire, effectivement, où il y avait une trentaine de bistrots par canton dans les années 70, il n'y en a plus que un ou deux par canton aujourd'hui. Donc il y a un aspect de déshérence comme ça. Et donc les penseurs du déclin, du choc, etc., ont beau jeu de dire, il n'y a plus rien, ces populations-là sont... Non, il n'y a plus de vie là-bas, puisqu'il n'y a plus les usines, il n'y a plus les associations, il n'y a plus les cafés, il n'y a plus les commerces. Enfin, on a l'impression que c'est un monde défait. Et en fait, quand on y vit, on voit que les personnes qui sont impliquées ont une vie sociale intense, se fréquentent beaucoup, et ont à cœur, et je pense qu'ils ont d'autant plus à cœur de ça qu'ils n'ont plus d'autres repères, qu'ils sont souvent au chômage, etc., ils ont à cœur d'appartenir à un groupe qui les valorise. Et quand ce collectif, vous le retrouvez plus au travail, vous le retrouvez plus dans une identité qui peut être valorisée, via un mouvement politique, associatif, ou une identité locale, par exemple, promue via les guides touristiques, hein, dans certaines régions, on est fiers d'être breton. Mmh. Bon, ben voilà, là, non, dans le Grand Est, les départements, on les connaît pas, on se dit avant tout fiers d'être français. On est, par exemple, fan de l'Olympique de Marseille, dans le cas de mes enquêtés, alors qu'on n'a jamais mis un pied à Marseille, mais parce qu'on veut se rattacher à une histoire qui nous dépasse et qui nous valorise. Et à petit niveau, au sein des groupes d'amis que j'ai observés, c'est la même chose. On a à cœur d'avoir, comme je reprends les mots de mes enquêtés, des vrais potes sur qui compter. Des personnes qui, en toutes circonstances, vont être de notre côté. Et ça, c'était quelque chose de très fort qui, à mesure en fait, que la figure d'un potentiel déclassement symbolique par le fait de ne pas avoir de travail ou de ne pas réussir dans la vie est proche. En fait, on voit de plus en plus de chômeurs de longue durée, que localement on appelle les cassos, et il y a cette stigmatisation permanente du cassos, tout le monde devient un peu le cassos de quelqu'un dans certains contextes. Ben là, pour être un minimum respectable, c'est de faire partie d'un groupe d'amis où on assure de la bonne réputation des uns et des autres, où on s'entraide, et ça peut paraître que symbolique, mais dans mon enquête, je me suis rendu compte que la manière dont les personnes avaient pu trouver un travail, que ce soit les jeunes femmes, les jeunes hommes, ou un compagnon ou une compagne, c'était par le groupe d'amis, c'était par des logiques de recommandation. Et tout ça tient, en fait, dans un petit monde d'interconnaissance où il est très important d'être, comme ils disent, bien vu, et de rester bien vu. Et ils sont prêts à se battre pour garder cette bonne réputation.
Ce qui est frappant, c'est que finalement, on recrée du collectif là où le collectif a déserté quelque part, là où à la fois l'État s'est désengagé, donc tout ce qui crée de la structure collective de la part du service public est parti, et où le travail est parti, et où le travail, on sait que c'est ce qui crée aussi du collectif. C'est une réponse à ça, quelque part.
Oui, voilà, c'était... c'est évidemment l'intérêt, à mon avis, de l'enquête de terrain, ça. Moi, j'ai pas cherché à répondre à la base à ça. D'ailleurs, au début de mes enquêtes, je ne vous cache pas, moi, j'étais un petit peu parti du milieu rural. J'en suis originaire. Je suis originaire des régions que j'enquête, etc. J'étais quand même surpris par la déshérence de certains lieux. Enfin, ça ne peut que marquer. Et il m'a fallu du temps, des années d'enquête, pour être réimpliqué dans les sociabilités collectives, etc. Et voir que finalement, il y avait une vie sociale qui était intense. Maintenant, il ne s'agit pas de dire non plus que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors même que les services publics sont largement délocalisés, comme les usines quelques dizaines d'années auparavant. On est quand même dans les départements où, quand on prend le taux de consommation d'héroïne par habitant, on est parmi les plus forts de France. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi et sans diplôme, sans perspective d'avenir. Et si ces groupes, ils existent aussi, ces groupes d'amis, que les enquêtés, ils appellent pas ça un groupe d'amis, ils appellent ça un clan ou une bande de potes. Et le clan, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est unis, mais dans une conflictualité. Et qu'on est unis avec un nombre restreint de personnes. C'est-à-dire que les consciences collectives que certains peuvent espérer renouveler au sein des milieux populaires et même au-delà, ici, elles sont restreintes à un petit nombre de personnes sur qui on peut compter. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que on ne peut pas être solidaire de tous. Ça reviendrait, je reprends un mot des enquêtés, ça reviendrait à passer pour des bisounours. Où il ne faut pas, j'entendais aussi, il ne faut pas crier sur tous les toits quand on a un bon plan pour un emploi, etc., pour du travail au noir, parce que sinon, il y en a d'autres, comme nous, exactement en même recherche d'emploi, qui vont être en concurrence. Et cette expérience de la concurrence, ils l'ont au quotidien. Et elle est d'autant plus forte que, quand vous avez vécu avec les mêmes personnes que vous connaissez depuis l'enfance, une fois que vous êtes en concurrence, les inimitiés, elles peuvent être très fortes. Et c'est un groupe contre un autre, un groupe d'amis contre un autre qui peuvent s'opposer. C'est très compliqué du coup d'appartenir, de fréquenter les uns les autres. Et c'est pour ça aussi que là, dans la vie quotidienne, on a tendance maintenant à se réunir chez les uns les autres, dans les maisons, au sein de la bande de potes ou du petit clan d'amis, et puis d'aller dans les bistrots qui sont des lieux ouverts où, comme certains me disaient, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Et du coup, il y en a certains qui ne peuvent plus se fréquenter. Et c'est ça la réalité d'un objectif déclin du marché de l'emploi local. Moi, j'ai des cas dans le bouquin que je relate de concurrence, par exemple, entre deux ouvriers plombiers qui sont formés à la plomberie, mais qui n'ont pas de boulot parce que le marché atone et que voilà. Et ils se retrouvent en fait en concurrence pour le même poste qui était censé se libérer depuis plusieurs années parce qu'on attend que, en gros, les anciens partent en retraite. Oui. Vous, dans certaines régions, vous êtes réduit à ça hein, pour avoir un emploi. Mmh. Et bien évidemment, quand ils vont se faire concurrence, vu qu'ils ont à peu près les mêmes formations, qu'ils ont un peu les mêmes bonnes réputations, c'est par piston que ça va se régler. Mmh. Donc celui qui n'a pas le poste le vit d'autant plus comme une injustice que l'autre est son semblable et qu'avant, ils étaient amis. Et pour cela, c'est très dur de croire en l'alliance de tous avec tous et du fait que le monde social ne serait pas conflictuel.
Cette organisation en groupe, cette protection du groupe, ça crée une priorisation aussi, et ça vous l'évoquez dans le livre, c'est le « nous d'abord ».
Ouais.
Ça, c'est un terme qui revient et qui d'ailleurs fait l'objet d'un chapitre entier à la fin. C'est une notion très forte.
Oui, c'est un terme sur lequel j'ai voulu insister. Alors, plus souvent, les enquêtés disaient « déjà nous ouais. »,« nous d'abord », »,« que nous ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je peux rentrer un peu dans les termes sociologiques un peu classiques, il y a un sociologue qui s'appelle Richard Hogarth, un célèbre sociologue anglais, qui parlait de la division « eux-nous » au sein des classes populaires, le « eux » des quartiers bourgeois, des patrons, de tous ceux qui ne sont pas ouvriers, voilà, avec une conscience du coup collectif qui était aux ouvriers. Alors que là, le « nous », il est encore plus sélectif et restreint, c'est-à-dire déjà « nous », c'est déjà « nous », mes vrais potes sur qui compter, avant d'autres qui peuvent être nos semblables en termes de conditions sociales. Et donc j'ai trouvé ça très, très parlant, en fait, pour résumer aussi certaines attitudes politiques qui, je pense, sont très compliquées à interpréter et qu'il faut savoir regarder en face et qui, en même temps, en sociologue, il faut savoir comprendre. Donc là, évidemment, je pense à l'affinité, en tout cas à la proximité idéologique que les enquêtés ont tendance à revendiquer, qu'une partie d'entre eux ont tendance à revendiquer avec le Front National, avec l'extrême droite. En se disant, c'est les expressions qui reviennent, 100% Le Pen, pour Le Pen, on rencontre même des gens qui se disent racistes, en se déclarant racistes, et en allant, j'ai essayé de creuser un petit peu, voilà, pourquoi, comment ça se fait, et les arguments qui revenaient, alors je précise d'emblée que ces personnes-là qui pouvaient se revendiquer 100% Le Pen, j'ai observé les jours d'élection, ils n'allaient pas voter, ouais. Donc c'est un peu le paradoxe des classes populaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans un désengagement vis-à-vis du vote, mais ils ne sont pas pour autant pas politisés, il ne faudrait pas croire ça. Ouais. Et donc, ils me disaient, au moins, c'est la seule à oser dire que ça pète un peu partout. C'est-à-dire qu'ils retrouvaient, chez Le Pen, chez Marine Le Pen, là, parce que c'était cette actualité-là, ils retrouvaient une vision conflictuelle du monde social que eux expérimentent au quotidien. Mais ils sont en conflit vis-à-vis de personnes qui leur ressemblent en tout point. Marine Le Pen, elle désigne les immigrés, les étrangers, etc. Mais on se rattache, en fait, à ce discours-là. Sur un substrat qui passe du local au national, comme ça, avec des jeux rhétoriques. Mais ce qui est exprimé, c'est ce qu'on vit dans la vie quotidienne. Et moi, à mon avis, pour comprendre vraiment l'adhésion qu'il peut y avoir parmi notamment les classes populaires à un tel discours politique, il faut aller regarder sur le terrain qu'est-ce qui se passe dans leur vie quotidienne. On ne peut pas se contenter de dire c'est des idéologues du racisme. Et ça, j'en veux pour preuve, j'en reviens au dernier chapitre que vous citiez, hein, dans les clans d'amis que je cite, parce qu'on est dans des régions industrielles et parce que on est sur des terres historiquement d'immigration. Il n'y a pas que ce que certains appellent, avec un grand misérabilisme, les petits blancs. Il y a aussi des jeunes descendants d'immigrés nord-africains qui sont venus pour travailler dans les usines ou dans les petites entreprises locales, et ils font partie de ces groupes d'amis. Et les mêmes personnes qui peuvent se revendiquer d'un certain racisme, proche de Le Pen, etc., peuvent avoir des solidarités et des alliances concrètes quotidiennes avec des personnes issues de l'immigration. Et donc, moi, j'avais beau jeu, en fait, vu que je représentais un peu celui qui n'était pas de ce bord politique, j'avais beau jeu de les contredire et de leur dire, mais ce que tu me dis là, ça m'étonne, parce que je prends l'exemple d'une scène d'ethnographie où il y a un enquêté qui s'appelle Émilien qui me dit qu'il ne peut pas jouer au football ou se retrouver dans la même pièce que des Noirs et des Arabes, que forcément ça va partir en bagarre, qu'il ne supporte pas, donc c'est un ouvrier d'usine. Et je lui dis, mais c'est quand même étonnant, un Arabe, t'en as là à côté de toi, il tenait par l'épaule un de ses meilleurs amis, que j'appelle Karim dans le livre, et qui lui, descendant d'immigrés nord-africains, et qui ne s'en cache pas du tout, et dit « Ah mais lui, c'est pas pareil, il est comme nous. Il est comme nous, il travaille avec moi, il vient chez moi quand il veut, c'est mon loulou, parce qu'on se donne souvent des petits surnoms comme ça. C'est pas pareil. » Et enfin, moi, j'ai trouvé que cette contradiction-là, elle était en fait assez parlante, mais qu'il fallait pas non plus nier que lorsqu'il y avait des concurrences et des conflits, ça se réglait en insultes racistes. C'est-à-dire qu'il y a un jeune qui s'exprime ça en entretien, qui lui dit le problème, c'est que dès que ça va mal, je ne sais plus exactement comment il dit, tu deviens le sale arabe. Et le problème, c'est que ceux que tu as toujours côtoyés vont t'assigner en fait à cette insulte-là, alors même que tu les as toujours côtoyés et qu'avant, il n'y avait pas ce problème-là. Donc en cas de conflit, il y a ces insultes-là qui ressortent. Mais en cas de conflit entre les dits petits blancs, il y a aussi des insultes très fortes, de cassos, etc. Ou même, ils peuvent se traiter par exemple de racistes, qui ressortent. Donc en fait, c'est les concurrences objectives qui sont le substrat de ces divisions idéologiques. Quoi.
La notion d'autonomie, elle est centrale dans la volonté d'autonomie, en tout cas la déclaration d'autonomie. Il y a notamment cette phrase qui est citée plusieurs fois, c'est « Ici, c'est la Corse sans la mer ».
Cette phrase, d'ailleurs, moi, ça m'a interpellé, en fait, ces deux jeunes hommes qui m'avaient lancé ça. Je l'avais entendu ailleurs, dans un reportage. Je me suis dit, c'est quand même étonnant de reprendre comme ça cette forme de référence à la Corse, une fois au hasard d'une discussion chez Feu Vert, dans un des départements que j'enquêtais, je demandais comment ça se faisait qu'on avait la plaque de la Corse 2B qui était affichée comme ça en haut, après celle du département. Il me dit, mais c'est la plus prise après celle du département. C'est-à-dire que les gens aiment bien avoir la plaque Corse. Et c'est vrai que certains m'ont dit, bah, au moins tu mets ça, on ne te crève pas les pneus. C'est un peu caricatural, hein, évidemment. Et puis les gens en jouent. Hein, c'est ironique, hein, évidemment, de se revendiquer comme ça. Mais il y a cette idée on est conscient qu'on continue de vivre dans des espaces qui ont tendance à être abandonnés par les décideurs publics, parce que les services publics notamment sont de plus en plus loin. On dit que tout est loin, que tout ferme, que tout le monde s'en fout de nous, ça revient. Et enfin, comment leur donner tort quand on regarde un petit peu l'état des choses. Mais d'un autre côté, on avait des situations... J'avais des personnes qui me déclaraient des phrases comme ça que je trouve très explicites, comme « ici au moins, tout le monde pense à peu près pareil. Tu sais à qui t'as affaire. Tout le monde se connaît. » Alors que la ville, qui faisait, par exemple Paris, faisait figure de repoussoir. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Il y avait cette idée, justement, que personne ne te viendra en aide si tu as besoin d'un coup de main. Et on peut revenir avant à ce qu'on disait, la logique du clan et des vrais potes sur qui compter. On a l'impression que ça, on ne pourrait le construire que dans un espace qu'on maîtrise, où on peut se rendre chez les uns les autres en voiture comme on veut. Ou quand on décide de se réunir sur la terrasse jusqu'à tard dans la nuit, il n'y a personne qui va venir nous dire d'éteindre la musique. C'est des choses où on peut, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais c'était souvent par rapport à la voiture. On me disait, au moins, je peux me garer juste devant chez toi pour venir. Alors que si on habitait en ville, on ne saurait pas comment se... Et ça, en fait, cette forme d'autonomie-là, elle est, à mon avis, elle en dit un peu plus que le simple style de vie. Elle renvoie aussi à l'envie de promouvoir des formes de classements sociaux, des manières de petites rétributions symboliques qui n'ont plus de valeur en ville. C'est-à-dire que moi, j'étudie des jeunes adultes, trentenaires, qui, dans l'ensemble, n'ont pas de diplôme, occupent des emplois d'exécutants, et pour autant peuvent potentiellement être très valorisés dans l'espace social qui est le leur, et peuvent être considérés comme des personnes relativement dominantes, qui ont réussi leur vie, avec des trajectoires de vie valorisées. Et ça, en fait, si on les transposait en ville, ils seraient... un exécutant parmi tant d'autres de plus en plus précarisés. Alors que dans ces espaces-là, où le modèle étudiantin, le modèle des étudiants, s'est peu établi pour les raisons qu'on expliquait avant, que les étudiants sont peu présents, reviennent peu. Donc finalement, les formes de réussite, elles passent autrement que par l'école, elles passent autrement que par une réussite qui serait celle du modèle du cadre, jeune cadre dynamique. Et en fait, l'autonomie territoriale, c'est une autonomie symbolique qui permet à ces classes populaires-là d'être encore fières de ce qu'elles sont.
Il reste au moins un autre volet qu'on n'a pas développé et qui compte dans le travail de Benoît Coquart, ce sont les rapports de genre, notamment les rapports hommes-femmes ou encore la masculinité. Pour le coup, ma camarade Victoire Toyon avait consacré un épisode entier des couilles sur la table avec lui à cette question précise. Je vous invite donc à le réécouter pour l'occasion. Merci à Benoît Coquart pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Play. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.